Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Profession de foi, l'émission politique de Radio Judaïka, Éric Vial interroge le journaliste Mohamed Sifaoui depuis la Fédération des arts du spectacle de l'audiovisuel et de la presse de Force ouvrière à Paris.
C'est un homme libre, une liberté qui lui coûte cher puisque c'est l'un des hommes les plus protégés de France. Sa liberté de ton, ses convictions, ses analyses brillantes, son intelligence en font l'une des cibles privilégiées des islamistes radicaux. Journaliste, écrivain, réalisateur, patron de télévision, ses enquêtes ou ses reportages concernent principalement des infiltrations dans les milieux dangereux. Né à Couba, en Algérie, de culture musulmane, il fait partie des témoins du procès Charlie Hebdo. Il fonde d'ailleurs l'association 11 janvier qui a pour but de perpétuer l'esprit Charlie. Il est membre du bureau exécutif de la LICRA et n'hésite jamais à dénoncer les actes antisémites. Il vient de créer Islamoscope TV, la première chaîne télé pour lutter contre l'islamisme. Son dernier ouvrage, Les Fossoyeurs de la République, est déjà un best-seller. Il fait partie des essais les plus vendus en France. Cette enquête vise à décrypter et à alerter de la montée de l'islamo-gauchisme en France et de la soumission de la République. Aujourd'hui, dans Profession de foi, j'ai la joie d'être reçu par Mohamed Sifaoui. Nous sommes depuis la Fédération des arts du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse, Force ouvrière, à Paris. Bonjour Mohamed Sifaoui, je suis ravi de vous interroger pour Radio Judaïka. Vous allez bien ?
Bonjour, merci. Oui, je vais comme peuvent aller la majorité des Français aujourd'hui avec tout ce contexte sanitaire si particulier et en toile de fond tous les problèmes qui nous préoccupent parce que ce sont des problèmes qui ne disparaissent pas. Je parle notamment de ce qui me tient à cœur depuis plusieurs années, c'est-à-dire toutes ces formes de haine, cet extrémisme que l'on voit poindre régulièrement et qui s'exprime à travers différents visages, dont celui de l'islam politique.
Alors, cette émission qui s'appelle Profession de foi a une particularité, c'est qu'on parle de politique. Vous êtes là aussi, Mohamed Sifaoui, pour votre livre « Les Fossoyeurs de la République ». Il y a évidemment un lien avec votre livre et la politique. Mais avant de parler, de rentrer un peu dans votre livre, je voulais savoir si vous vous êtes rendu compte, quand vous avez écrit cet article dans le JDD, le feu que vous avez mis en Alsace sur l'entrisme d'Erdogan dans notre région. Est-ce que c'est revenu jusqu'à vos oreilles ?
Oui, parce que ce soit le JDD qui a publié l'enquête hein, ou moi-même, nous avons reçu énormément de réactions. Plusieurs positives, parce que le lecteur est toujours friand, évidemment. Et c'est inhérent à un cadre démocratique, de connaître la réalité qui l'entoure et les phénomènes qui, je dirais, se manifestent dans sa société. On l'oublie souvent, le journaliste est là, dans un pacte de confiance avec le lecteur, pour l'informer. Et une information fiable est consubstantielle au cadre démocratique. Il ne peut pas y avoir deux démocraties sans information. Ensuite, on a eu des réactions très hostiles de la part des relais et des vecteurs d'influence de M. Erdogan. Mais ça a été sans surprise. Et en ce qui me concerne, disons que je suis, au regard des sujets que je traite, habitué à faire face à toute forme de pression et de menace. Et je passe sur les injures, les diffamations, les accusations mensongères, etc. Pour essayer d'intimider le travail qui est le mien. Mais je ne suis pas le seul dans cette situation. S'agissant du pouvoir turc, on voit depuis quelques années que lorsque des journalistes mettent en cause la réalité de l'autocrate Recep Tayyip Erdogan et, je dirais, sa propension à essayer de se projeter vers l'étranger, vers l'Europe, notamment en utilisant et en instrumentalisant sa diaspora, il y a des pressions qui sont exercées sur les médias. Je me rappelle, et je pense que beaucoup s'en souviennent, de la une du Point, qui affichait le visage de l'autocrate turc avec le titre « Le dictateur ». Et plusieurs kiosquiers avaient fait l'objet, dans plusieurs points du pays, de quelques pressions de la part de jeunes militants, de jeunes ou de moins jeunes, enfin en tout cas de militants, de cette diaspora, mais pas, je n'homogénéise pas évidemment la diaspora turque, parce que comme dans tout phénomène communautariste, il y a toujours des gens très bien, mais il y a dans cette diaspora une forte minorité agissante et toxique, je pèse mes mots, qui n'a absolument rien à faire dans un cadre démocratique, parce que manifestement, ils ne savent pas vivre dans un cadre démocratique.
Alors, il y a eu toute une actualité. Il y a eu évidemment votre article dans le JDD. Et puis, il y a eu derrière la résolution de financement à la grande mosquée qui est arrivée, le débat national qui s'est ouvert. Est-ce qu'il faut vraiment être inquiet ?
Non, il faut être lucide. Moi, je ne suis pas de ceux qui, je dirais, encouragent l'inquiétude. Parce que l'inquiétude a tendance à générer la peur, et la peur a tendance à son tour à anesthésier. C'est parce qu'on a été trop inquiet et trop peureux qu'on est devenu parfois trop lâche. Je parle de manière générale de la société, des responsables politiques a fortiori. Beaucoup d'entre eux sont aussi trop cyniques, trop irresponsables, pensant davantage à leur petite carrière, à leur petit business, au lieu de penser au devenir de la nation.
C'est un peu l'objet de votre livre d'ailleurs.
Et oui, mais je suis extrêmement sévère et nous devons être extrêmement sévères avec ces élus qui jouent, qui flirtent, qui manipulent, qui instrumentalisent, qui se compromettent avec l'islam politique. C'est une réalité qu'il faut dénoncer et qu'il faut, je dirais, sanctionner dans les urnes. Mmh. Que ce soit très clair. Donc, pour revenir au cadre strasbourgeois, il y a évidemment une réalité, c'est qu'il y a un microcosme turc lié à l'AKP, et à M. Erdogan,
qui est le parti d'Erdogan.
Qui est le parti d'Erdogan. Il y a un activisme de la part du Milli Görüş, qui est la matrice idéologique de l'islamisme turc, et qui, après plusieurs années de discrétion, se met à, je dirais, essayer d'étendre son influence sur le territoire français, comme elle l'avait fait en Allemagne. Et ensuite, il y a évidemment des associations, je pense au COGEP notamment, des associations turques, des associations d'influence, des associations de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire qui essayent, encore une fois, de faire de l'influence. Et à côté de ça, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de, je ne dirais pas médias, parce que ça serait insulter le travail journalistique, mais d'outils de propagande qui sont à la solde de M. Erdogan et qui désinforment en utilisant des fake news, qui désinforme d'abord la diaspora turque, parce que c'est destiné vers elle, et qui tente, par prolongement, de désinformer la communauté nationale et internationale, puisque plusieurs langues sont utilisées pour parler de la France en des termes mensongers et diffamatoires, notamment en présentant notre pays comme un pays, je cite, « raciste » et, comme ils disent, islamophobe, ce qui est totalement faux, évidemment, quand on connaît la réalité de la République.
Mais quel intérêt ? Quel intérêt pour la Turquie ?
L'intérêt du régime turc, c'est d'abord du régime turc et d'Erdogan. Nous parlons bien du régime d'Erdogan, nous ne parlons pas de la Turquie, nous parlons d'un régime autoritaire islamiste. Son intérêt, c'est d'abord d'étendre une influence, d'utiliser la diaspora comme... je dirais, relais supplémentaire pour accroître des scores électoraux qui sont en baisse.
C'est
Erdogan
politique.
N'a plus la même, la même aura en Turquie qu'il avait auparavant. Il est en train de perdre des points parce que, s'agissant notamment de son bilan économique, il n'est pas du tout bon. Et en plus, il a... passez-moi l'expression, un management politique des plus détestables, puisqu'il est en train, tranquillement et en toute discrétion, plus ou moins, de faire glisser la Turquie vers une autocratie, voire vers une dictature. Mais... Donc, sa diaspora lui permet de compenser une perte d'influence en interne. Par exemple, lorsque Recep Tayyip Erdogan, dans des élections, lui ou son parti... obtiennent une moyenne de 52% sur le plan intérieur. Mmh. À l'extérieur, en Europe, en Allemagne notamment, où il y a 4 millions de personnes qui votent, ils peuvent obtenir entre 60 et 90% dans certains pays européens, dont l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, etc.
Mais alors, là, vous nous expliquez, vous avez un raisonnement qui est politique, on peut le comprendre, mais quand le président de la République, Emmanuel Macron, dit qu'il y a une volonté de la part de Recep Erdogan de fragiliser carrément la République, c'est quoi cet intérêt ?
C'est...
Il y a la volonté d'une expansion islamiste en France ?
Non. Ça, c'est des théories complotistes qui sont portées notamment par l'extrême droite. On ne va pas à cette extrémité. Je veux dire, Erdogan ne cherche pas à planter le drapeau turc sur l'Elysée. Je veux dire, il faut savoir raison garder. Aussi, non, ce qui est en train d'être fait par Erdogan, c'est d'essayer de faire de la France ce qu'il a réussi à faire en Allemagne, c'est-à-dire avoir une influence totale sur sa diaspora, l'avoir en main, véritablement, et pourchasser ainsi, à travers sa diaspora, les opposants, les éventuels opposants, les détracteurs. On voit, par exemple, aujourd'hui, à chaque fois que Recep Tayyip Erdogan est critiqué, il y a des gens qui s'élèvent pour défendre son image, avec beaucoup de zèle, et de plus en plus, aussi, des gens qui ne sont même pas turcs, qui sont littéralement achetés, évidemment, payés. On n'a pas les preuves, mais on le sait. On le sait parce qu'il y a évidemment, dans ce pays, heureusement, des services de renseignement qui travaillent et il y a parfois des fuites. D'ailleurs, c'est grâce à quelques indiscrétions que j'ai pu avoir accès à un certain nombre d'analyses, de documents, de surveillance qui montrent effectivement que le régime turc, à travers des relais d'influence sur le territoire national, cherche notamment depuis plusieurs années à s'immiscer dans des élections françaises pour essayer de faire installer des gens dans des conseils municipaux. Ils avaient créé, rappelez-vous, à l'est du pays, le PEJ, un parti qui est aujourd'hui dissous, mais qui était une sorte d'appendice de l'AKP d'Erdogan. Ils ont ensuite vu que cela ne marchait pas parce que les scores étaient ridicules. Donc ils ont changé de stratégie. Ils ont essayé d'injecter, ou ils essayent toujours d'injecter, des candidats dans toutes les listes ou dans la plupart des listes de l'ensemble des partis pour être présents et pour peser. Cette volonté, évidemment, elle vise à propager une doctrine islamiste. Ce que ne veulent pas les islamistes de manière générale et ce que ne veut pas Erdogan en particulier, c'est de voir les membres de sa diaspora s'intégrer à la République française. D'ailleurs, regardez notre consoeur, cette jeune femme qui a écrit un livre et qui, de façon courageuse, a expliqué ce qu'elle avait subi juste parce qu'elle avait décidé
de changer de prénom
et de prendre un nom, je dirais, à connotation européenne, enfin française. Regardez ce qu'elle subit, regardez l'ostracisation, regardez la diffamation, regardez le harcèlement. Les islamistes, comme tous les autocrates, mais les islamistes en particulier, ont une sainte horreur de tout ce qui est de nature à amener les gens à s'émanciper. Et ce type de régime, comme Erdogan, sait qu'aujourd'hui, l'Europe, étant offrant ce cadre démocratique, peut permettre à des oppositions de s'exprimer et de s'épanouir. Et ils ont peur des contagions. C'est-à-dire qu'une revendication d'émancipation, une revendication de laïcité, une revendication démocratique, une revendication de droits féministes puisse atteindre la rue et la société turque à partir d'un territoire européen comme l'Allemagne, comme la France, ou je dirais, entre l'Allemagne et la France, il y a déjà près de 5 millions de
personnes. Bah oui, bien sûr, c'est énorme.
De personnes.
Quand on sait tout ça, quand vous nous dites tout ça, Mohamed Sifaoui, est-ce que on peut considérer que la ville de Strasbourg a eu raison de financer à Miligoruch 2,5 millions d'euros de la part des contribuables, puisque c'est eux qui payent, cette grande mosquée ?
Il y a une pédagogie à faire et des hypocrisies à lever. Parce que je veux quand même faire le distinguo entre ceux qui se trompent de bonne foi et ceux qui, façon consciente, instrumentalisent l'islam politique. Ce que permet le concordat, ce que permet la loi locale.
L'islam ne fait pas partie du concordat.
Oui, mais la loi le permet. La loi n'interdit pas, la loi le permet. Il ne faut pas l'oublier. Évidemment, quand le concordat était mis en place, l'islam n'était pas présent. Mais
ceux qui refusent toujours le concordat, c'est l'islam. Quand on discute avec les musulmans, en Alsace notamment, ou en Moselle, ce sont les musulmans qui refusent le concordat, Mohamed Sifaoui. Parce qu'il y a quand même des implications dans le concordat, notamment le fait que c'est l'État qui choisit les officiers du culte.
Il y a évidemment de ça, mais parce que le statu quo, en fait, est un régime qui complaît aux islamistes. Encore une fois, que le concordat n'inclut pas l'islam est une réalité. Mais il n'y a rien dans le régime concordataire qui exclut l'islam. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, il est important de rappeler des règles de droit parce que nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas faire des choses n'importe comment. Simplement, l'erreur et la faute morale et la faute politique, elle n'est pas... De la mairie, elle n'est pas juridique, encore une fois. Elle n'est pas juridique, elle est politique. Pourquoi elle est politique ? Si rien n'interdit dans la loi de financer le culte musulman, un responsable politique a l'obligation de définir ce qui est musulman et ce qui est islamiste. C'est une obligation morale et une obligation politique. Or, si rien n'interdit de financer le culte musulman, la politique, la morale républicaine, et je dirais une responsabilité d'un élu, devrait lui interdire de financer l'islam politique parce que l'islam politique tue et l'islam politique est une doctrine qui est l'ennemi de tous les principes républicains. Est-ce que les choses ainsi dites sont claires ? Je pense que oui. Donc, ce qui m'étonne, quand même, vous avez eu la sympathie et la gentillesse de citer mon enquête dans le JDD. On ne peut pas dire, et je ne suis pas le seul, ça fait plusieurs mois que plusieurs confrères, plusieurs médias...
Quelque part, cette enquête a libéré la parole aussi en Alsace, c'est
oui,
ça que je voulais dire.
Oui, plusieurs enquêtes, je ne suis pas le seul, ont démontré qu'il y avait un problème aujourd'hui avec des associations d'activistes islamistes turcs. À tout le moins, un responsable politique s'interroge. Quand j'entends, et je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais quand j'entends des élus locaux dire « oui, mais le gouvernement ne nous a rien dit ». Mais comment ça, le gouvernement ? Et effectivement, de ce point de vue, Marlène Schiappa avait raison hier à l'Assemblée en disant « qu'est-ce que vous voulez, un mémo pour vous dire que l'islamisme est dangereux ?» Enfin, c'est ridicule. C'est totalement ridicule.
Il suffit de regarder sur Wikipédia. Hein.
Est-ce que si c'était une organisation d'extrême droite, la municipalité aurait demandé un mémo au préfet ? Je ne le pense pas. Tout seul, ils auraient pu identifier que c'est une organisation d'extrême droite et ils ne l'auraient pas financée à juste titre. Donc là, en l'espèce, on a une organisation qui est clairement identifiée. Et je vais vous dire, pour vous dire à quel point je ne suis pas du tout dans un système de connivence avec un pouvoir quel qu'il soit. Les pouvoirs successifs, depuis maintenant une vingtaine d'années, se sont trompés dans l'organisation de l'islam de France. En créant les conditions de mettre en place des creusets où se réunissaient des musulmans APC avec des islamistes. Et là, depuis octobre dernier, il y a un changement manifeste dans, je dirais, le discours gouvernemental. Et c'est fondamental. Le discours du président de la République aux Mureaux est... Et c'est comme ça que je le vois, une sorte de nouvelle dynamique anti-islamiste clairement assumée par l'État. Et c'est très important. Et cette dynamique assumée au plus haut sommet de l'État aujourd'hui, de façon frontale, discours qui avait été prononcé 2 semaines avant l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty, et dans un contexte quand même de menaces, etc., montre que l'État... a enfin, et l'administration, en tout cas une grande partie de l'administration, a enfin compris qu'il y avait un véritable problème islamiste qu'il fallait régler. Entre le discours des Mureaux du président de la République qui donne une nouvelle orientation générale pour les Français, et c'est important parce que ça ne concerne pas un gouvernement, la lutte contre l'islam politique ne concerne pas un gouvernement, ne concerne pas une ligne politique, ne concerne pas un banc de l'Assemblée. La lutte contre l'islam politique doit être une lutte républicaine de tous les républicains. Et au même titre que le terrorisme ne concerne pas qu'un gouvernement, il nous concerne tous dans un cadre d'union normalement. Là aussi, si vous voulez, l'entêtement de cette partie de la gauche, des Verts notamment, là, dans le cas d'espèce, est quand même extraordinaire. Pourquoi ? Parce que on a eu un moment dans l'actualité qui a révélé ce qu'était véritablement le Miligorush, et pas seulement le Miligorush. C'est la question de la charte initiée par plusieurs fédérations du Conseil français du culte musulman. Cette charte des principes pour un islam de France qui ne fait que réitérer un certain nombre de valeurs
et de principes républicains
et les souligner, a été une initiative donc, qui a été lancé par certaines fédérations, les fédérations turques, les deux fédérations turques, le Miligoruch et le CCMTF, qui est le prolongement de la DITIB et donc du régime turc, ont refusé de signer cette charte sur injonction d'Ankara. Donc, les choses sont claires. On a un moment de clarification idéologique qui est arrivé en début d'année 2021 grâce à cette fameuse charte des principes. Eh bien, il aurait fallu juste regarder qui n'a pas signé pour dire si vous ne signez pas une charte qui rappelle la primauté des lois de la République sur les principes religieux, qui promeut et rappelle les principes d'égalité entre les femmes et les hommes, qui rappelle que la haine de l'autre est quelque chose qui est, je dirais, inacceptable dans notre pays, qui rappelle que toute forme de prosélytisme virulent, actif, discriminant, etc., est prohibé. Enfin, tout ce que réprouve la morale républicaine est souligné, ou en tout cas dans ses grandes lignes, dans cette charte. Quand vous voyez que des organisations rejettent même l'appellation islam de France,
oui.
Comment vous pouvez... c'est quand même, pour moi, une question de bon sens et d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, quand on rejette l'appellation d'islam de France, on accepte par ailleurs l'argent du contribuable français. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est une escroquerie d'un point de vue moral, et ça prouve que les islamistes sont d'un cynisme extraordinaire, parce que s'ils avaient un minimum de dignité, eh ben, quand on n'accepte pas les valeurs de la France, on n'accepte pas l'argent des Français. On ne peut pas, d'un côté, ne pas accepter les valeurs de la République française et vouloir, d'un autre côté, l'argent de la République française, parce que c'est l'argent du contribuable français. Et ces 2,5 millions d'euros ne vont pas servir à créer les conditions pour que des gens puissent prier 5 fois par jour. C'est de créer une mosquée phare, une mosquée cathédrale qui va être une rampe de lancement pour une idéologie mortifère, intégriste, extrémiste, fondamentaliste, contraire aux principes républicains.
Mohamed Sifaoui, nous allons donner maintenant la parole aux auditeurs. Ils ont été nombreux depuis que nous avons annoncé votre venue sur Radio Judaïka à vouloir vous poser des questions. Alors c'est Valérie depuis Strasbourg qui nous a sélectionné 3 questions. Je rappelle le mail dédié si vous voulez envoyer des questions, c'est judaïka@live.fr. Voici la première question.
Une première question de Rebecca de Strasbourg. Quelle est la raison qui suscite autant de haine à l'encontre de M. Sifaoui de la part des islamistes radicaux ?
Bon, d'abord, je pense qu'il faudrait leur demander, mais vous savez, moi, il y a très longtemps, j'ai fait un choix. C'est un choix philosophique, c'est un choix de vie, c'est un choix totalement réfléchi. Étant donné que je suis journaliste et j'ai la possibilité de m'exprimer publiquement, d'abord, j'ai ce trait de caractère qui fait partie de moi, c'est je dis toujours ce que je pense en toutes circonstances. Je ne suis pas quelqu'un qui est mal à l'aise avec...
Quand on est un lanceur d'alerte, on est quand même seul, hein, c'est le coup, hein, de la liberté.
Mais,
hein.
À vrai dire, j'ai été longtemps seul, c'est vrai. J'ai été longtemps diffamé, décrié, insulté, tout ce qu'on veut, menacé, évidemment. Mais je suis de moins en moins seul. Et c'est une grande satisfaction d'un point de vue moral parce que lorsqu'on est persévérant, on finit toujours par faire la démonstration parce qu'il ne faut jamais insulter l'intelligence des gens. C'est vrai que j'ai été seul dans le sens où la plupart des confrères ne m'ont pas soutenu, que le pouvoir politique estimait que c'était excessif quand je disais qu'il y avait une menace terroriste en France ou qu'il y avait une menace islamiste en France au début des années 2000. Beaucoup croyaient que j'exagérais. Malheureusement, j'aurais aimé, et je vous assure que c'est vrai, j'aurais aimé ne pas perdre des amis, ne pas voir des Français mourir, ne pas voir des gens mourir, quelle qu'elle soit leur nationalité, et avoir tort. Mais malheureusement, toutes les enquêtes que j'avais réalisées au début des années 2000 me montraient que nous allions vers quelque chose de très grave. Et c'est pour ça que j'ai persévéré, j'ai tenu bon, malgré, encore une fois, toutes les tentatives de déstabilisation que j'ai pu subir. Heureusement que j'ai une carapace qui est assez solide, qu'avec l'âge et qu'avec le temps, elle se solidifie encore plus. Mais je sais que beaucoup de lecteurs, parce que je vois quand même quels sont le niveau, je dirais, de mes lecteurs depuis des années. Mmh. Il y a des lecteurs fidèles qui me suivent depuis une vingtaine d'années, qui ont lu parfois tous mes livres.
On l'a vu aux questions, elles ont été nombreuses.
Les téléspectateurs m'envoient souvent des messages privés extrêmement chaleureux et très, très solidaires. Donc oui, d'une certaine façon, j'ai été seul pendant longtemps, mais cette solitude, heureusement, encore une fois, s'est arrêtée parce qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus grande aujourd'hui et les îlots de la compromission et de la couardise sont désormais identifiés. Et ce sont eux qui risquent d'être seuls et isolés.
Une deuxième question.
Marie de Vendenheim, sur Wikipédia, on peut lire que votre invité a de nombreuses controverses contre lui, notamment celle d'être lié avec des généraux algériens. Qu'a-t-il à répondre ?
Ça fait partie des tentatives de déstabilisation que j'ai eu à subir. Je n'ai pas de lien. Moi, l'Algérie, ça fait 22 ans que je n'ai pas remis les pieds. Il y a très peu de personnes liées au régime algérien qui ne rentrent pas en Algérie. Je suis persona non grata. J'ai été condamné là-bas à de la prison ferme pour mes écrits et pour mes propos. J'ai consacré trois livres au régime algérien. Un pamphlet contre Bouteflika. Un livre enquête sur la nature du régime algérien et le régime militaire et ses services spéciaux. Et un troisième livre qui est sorti juste avant le début des manifestations en Algérie, il y a de cela près de 2 ans, qui montrait et expliquait la nature du pouvoir algérien. En vérité, cette étiquette m'a été collée tout simplement au moment de la guerre civile parce que, évidemment, entre un pouvoir aussi détestable soit-il qui mène une lutte antiterroriste face à des gens qui ont la volonté d'instaurer la charia, je m'étais gardé, je dirais, de formuler les critiques les plus acerbes sur le régime. Et je ne l'ai fait qu'à la fin. Donc, par conséquent, certains pensaient que j'étais beaucoup plus proche du régime que des islamistes. En fait, il n'en est rien. Sauf que... peut-être que ceux qui ne savent pas la politique peuvent ignorer ça. La politique, c'est toujours la possibilité qui est offerte, c'est pas de choisir le meilleur. Il n'existe pas de meilleur en politique, sauf pour les utopistes. Par contre, il faut écarter il faut dans des cas extrêmes choisir le moins pire. Et en l'occurrence, si j'avais demain à choisir entre une extrême droite et des gens qui ne sont pas forcément de mon bord aujourd'hui et que je combats, j'écarterai en priorité l'extrême droite parce que j'estime que l'extrême droite est un danger pour les principes républicains. Et ben c'est de la même manière quand j'ai été confronté à un choix cornélien entre un régime autocratique, en termes d'élection évidemment, et un régime islamiste qui voulait instaurer la charia, j'ai dit la priorité c'est d'écarter le régime islamiste. Il y a débat, je ne dis pas que c'est... mais en tout cas... Quand j'avais 25, 26 ans, 27 ans, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et cela ne me compromet pas pour autant avec un régime détestable que je combats par ailleurs.
Une troisième question.
Une question de Corinne de Strasbourg, Esplanade. J'ai vu plusieurs conférences organisées par le CRIF avec M. Sifaoui. Quelles sont exactement ses relations avec le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France ?
Alors, il y en a qui disent que vous êtes trop arabe, apparemment d'autres qui disent que vous êtes trop juif.
Non, mais enfin, le CRIF est une organisation communautaire juive. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis depuis maintenant une vingtaine d'années très engagé en France auprès de l'ensemble de la société civile. C'est-à-dire que je réponds favorablement aux sollicitations qui me sont... aimablement, je dirais, envoyé par différentes associations tant que celles-ci se reconnaissent dans le spectre républicain. Et de ce point de vue, oui, j'ai eu quelques conférences avec le CRIF. Et d'ailleurs, je ne m'en cache pas, je vais même dire pire, j'ai même des amis au CRIF et des amis très très chers. Mais comme j'ai des amis à SOS Racisme, comme j'ai des amis à la LICRA, comme j'ai des amis dans différentes organisations, dans des partis politiques, dans des ONG, cela ne m'a jamais empêché de garder, d'une part, mon indépendance et mon regard critique. Les différents présidents du CRIF, que je connais parfaitement, depuis Richard Prasquier, en passant par Roger Kuckermann et évidemment l'actuel président du CRIF, j'ai eu avec eux des relations très cordiales. Mais tous connaissent mon indépendance d'esprit. Je veux dire, Francis Khalifa, l'actuel président du CRIF, sait très bien que j'ai à la fois une relation amicale et républicaine avec son organisation et amicale avec lui, parce que c'est quelqu'un d'appréciable et que pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Mais il sait par ailleurs que mes critiques sont exprimées clairement, que ce soit à l'égard de certains îlots extrémistes dans la communauté juive qui se laissent aller parfois à des quelques facilités, et encore davantage à l'endroit du pouvoir israélien. Donc si c'est parce que c'est ça le fond de la question. Après, moi, je crois qu'il y a aussi des gens qui se trompent. Je suis par ailleurs militant antiraciste. Et quand je dis militant antiraciste, ça veut dire que je ne suis pas homosexuel, je lutte contre les homophobes. Je ne suis pas femme, je lutte contre les misogynes. Je ne suis pas juif, je lutte contre les antisémites. Et je peux continuer comme ça. Je suis d'origine maghrébine, je lutte contre les racistes. Je ne suis pas noir, je lutte contre les racistes qui stigmatisent les gens de couleur, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pour moi une évidence. Et pour certains, le fait de lutter contre l'antisémitisme dans une sorte d'amalgame et de construction intellectuelle complotiste très bizarroïde, serait une expression d'une alignation avec le sionisme international. Et là, on rentre dans quelque chose, évidemment, que nous connaissons et qui est d'une nature, comme je l'ai dit, très complotiste.
Mohamed Sifaoui est l'invité de Profession de foi. On est à Paris et c'est lui qui nous reçoit pour parler de son livre « Les Fossoyeurs de la République ». On a beaucoup parlé d'Alsace, de l'entrisme de Erdogan dans notre région. Mais cette deuxième partie d'émission sera vraiment consacrée à son livre et à l'islamo-gauchisme dont il faut qu'on parle. On a beaucoup parlé d'islam pour l'instant, pas trop de gauchisme, mais ça va arriver. Il y a une tradition dans cette émission, Mohamed, c'est que c'est l'invité qui choisit la pause musicale. Voilà. Alors vous avez choisi une pause musicale. Vous allez nous dire laquelle et pourquoi vous avez choisi cette pause.
Alors, vous me posez la question comme ça et presque de façon instinctive, en réfléchissant quelques secondes, mon dévolu est jeté pour Happy Together. Parce que The King Princess et Mark Ronson.
C'est une vieille chanson.
Oui,
ça.
Parce que c'est une vieille chanson et je suis un peu nostalgique. Non, je suis un peu pas nostalgique dans le sens réactionnaire, mais nostalgique dans ces périodes d'insouciance où on pouvait, exprimer une sorte de joie de vivre qui est en train de disparaître, me semble-t-il. Parce que les vicissitudes, peut-être, de la vie sont devenues trop complexes, parce que nous vivons une période sanitaire très compliquée. Il y a des inquiétudes, chez les citoyens pour leur santé, pour leurs proches. Il y a des inquiétudes économiques, il y a des inquiétudes pour demain, pour les générations futures. Il y a des inquiétudes sur ce que pose comme défi l'islam politique, le terrorisme. Enfin, voilà. Et je trouve que d'abord, voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui me rappelle peut-être à la fois une jeunesse, une adolescence où j'étais beaucoup plus insoucieux et moi-même beaucoup plus, enfin, comment dire, je faisais preuve peut-être de beaucoup plus de légèreté parce que des sujets comme ceux que je traite amènent et invitent à une certaine gravité. Voilà. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest the time, and you say you belong to me, it needs my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
for me, so happy together. They toss the dice. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. So happy together. So happy.
Mohamed Sifaoui, Happy Together, c'était son choix musical. Mohamed Sifaoui qui est l'invité de Radio Judaïka aujourd'hui pour nous présenter son livre qui fait débat encore. Chaque fois que de toute façon vous faites quelque chose, Mohamed Sifaoui, il faut le dire, ça fait débat, on en parle, il y a des controverses. Les Fossoyeurs de la République, et quand on regarde le livre, alors c'est pas un bandeau, hein. Enfin, c'est un sous-titre quelque part.
Ça s'appelle un faux bandeau chez les éditeurs.
Un faux bandeau. Voilà.
Chez les éditeurs,
parce que
ça
le bandeau peut
ça.
L'enlever. Ouais, ouais. Et là-dessus, moi, quand j'ai découvert votre livre, c'est ça qui m'a fait bondir. Je pense qu'il y a aussi évidemment cet objectif-là de la part de votre éditeur. C'est indiqué islamo-gauchisme, l'enquête inédite. Et là, on pense forcément à des mots de l'extrême gauche ou de la France insoumise quand on parle d'islamo-gauchiste. Qui vous disent « l'islamo-gauchisme est une théorie de l'extrême droite, ça n'a jamais existé ». Mohamed Sifaoui, est-ce que vous êtes d'extrême droite? Vous avez repris un terme d'extrême droite, là. C'est assez grave. Islamo-gauchisme.
D'abord, ce n'est pas un terme d'extrême droite. Le premier qui l'a forgé, c'est Pierre-André Taguieff. C'est un universitaire respectable et respecté.
Qu'on connaît bien ici.
C'est un monsieur admirable. Et il ne serait pas très sympathique de le traiter d'extrême droite. Donc ceux qui pensent que ce terme est d'extrême droite se trompent. Ensuite...
Mais il est apparu là, tout d'un coup.
Oui, non. Et justement, c'est toute la démonstration que je fais dans mon livre. D'abord, prenons les choses, si vous permettez, dans l'ordre. D'abord, un néologisme, quand il est créé, quand il s'impose dans le débat public, donc un nouveau mot, c'est pour deux raisons possibles. Soit pour fixer quelque chose de nouveau qui existe, soit pour illustrer, je dirais, quelque chose qui n'existe pas avec des relents complotistes. Je m'explique. Par le passé, on a eu des néologismes qui expliquaient des choses qui n'existaient pas et qui relevaient du complot. À l'issue de la révolution d'octobre en Russie, les Russes, ont créé judéo-bolchevisme pour essayer de faire croire, dans la continuité du protocole des sages de Sion, que la révolution d'octobre qui a déposé le tsar et qui a amené donc les tenants de la pensée léniniste au pouvoir était un complot fomenté par les juifs. Là, on a un néologisme, un exemple précis d'un néologisme qui fixe une irréalité, quelque chose de totalement faux. Parce que, pourquoi totalement faux? Parce que dans les faits, on se rend compte qu'en vérité, et on le sait aujourd'hui, que la police tsariste avait concocté un certain nombre de concepts à la fois antisémites et mensongers, et avait créé ou avait favorisé la création de mots comme ça qui furent pour certains repris notamment par la propagande nazie par la suite. Donc ça, c'est un cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que les néologismes arrivent pour forger des situations qui existent. Islamo-gauchisme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que toute l'histoire de ce livre, c'est ça. Il y a deux ans, je me suis dit, c'est pas nouveau, on en parle depuis quelque temps. C'est un terme qui revient régulièrement dans la bouche de plusieurs personnes et j'ai l'impression que beaucoup n'en connaissent ni l'histoire, ni le sens, ni la définition, ni la réalité. Et pour avoir travaillé longtemps sur l'ensemble du monde arabo-musulman, j'ai peut-être quelque chose, et pardon, je le dis avec un peu de sévérité, j'ai peut-être une qualité que n'ont pas beaucoup d'universitaires français, beaucoup d'intellectuels. C'est que je ne suis pas auto-centré. Moi, mon travail n'est pas un regard permanent sur la France et les Français. Surtout quand il s'agit d'islam politique, j'ai un regard sur le monde. Et parce que le monde ne s'arrête pas à la France, il ne s'arrête pas à Paris. Donc, de ce point de vue, j'ai essayé de voir ce qui se passait à travers le monde. Alors d'abord, quand Pierre-André Taguieff fixe et forge ce mot, qu'est-ce qu'il veut illustrer ? Il veut illustrer une convergence des luttes entre des milieux islamistes et des milieux gauchistes. J'ai eu l'occasion à d'autres reprises de le dire et je l'explique en détail dans mon livre. Tout ce qui est à gauche n'est pas islamo-gauchiste. Ça, c'est faux de le dire et ça, c'est l'extrême droite qui le prétend. En revanche, dire et affirmer que des milieux gauchistes, c'est-à-dire certains trotskistes, certains lambertistes, certains anarchistes, certains communistes, certains socialistes, sont depuis plusieurs années dans une démarche de connivence avec soit les frères musulmans, soit les salafistes, soit la KP turque, soit d'autres courants islamistes, est une réalité documentée. Que ça soit très clair, c'est une réalité documentée. Ce qui a amené Pierre-André Taguieff à fixer ce terme, et il le dit, et je l'ai interrogé pour les besoins de cette enquête, et donc il me l'a reprécisé, c'est lorsqu'il est parti constater de visu des manifestations au moment de la seconde intifada, où il a vu, effectivement, des islamistes marcher aux côtés de, représentants de la gauche. Et c'est une chose qu'on a revue à plusieurs reprises, je me rappelle, pendant notamment le bombardement de Gaza, qui a eu des manifestations, on s'en souvient, parfois violentes, où il a été crié « mort aux Juifs, mort à Israël », dans les rues de Paris ou dans les rues de certaines villes de France, et il y avait des drapeaux du Hezbollah, des drapeaux islamistes, et il y avait des enseignes de certains syndicats de gauche, de certains partis de gauche, etc. Et c'est ça l'islamo-gauchisme.
Mais quel intérêt là encore ? Quel intérêt cette connivence entre cette gauche islamo-gauchiste, justement, et des mouvements terroristes parfois ?
Alors,
quel intérêt ?
D'abord, il y a deux niveaux. Il y a effectivement la convergence avec des milieux islamistes.
C'est l'électoralisme ?
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, et ça a été dit et expliqué, etc., que la défaite en fait, politique et idéologique de la gauche, notamment après la chute du mur, a créé de grandes frustrations dans des milieux de gauche. Et ils ont commencé à voir ceux qu'ils appellent communément et de façon indiscriminée les musulmans au sens large, sans croire que dans cette masse dite musulmane, il y aurait des opinions diverses, des sensibilités diverses, des philosophies diverses. Parce que dans la bouche de beaucoup de responsables de gauche, quand ils parlent des musulmans, vous avez l'impression que c'est une masse, comme ça, un bloc homogène et monolithique. En fait, il n'y a pas d'individu, il y a une masse. Alors, en vérité, déjà, cette approche-là est raciste en soi. Voilà, un autre racisme dont on parle rarement. Donc cette masse-là est perçue comme le nouveau prolétariat. Étant donné que l'immigration en Europe, les gens de descendance immigrée ont remplacé dans les quartiers populaires le prolétariat traditionnel qui a constitué longtemps la base électorale et sociétale de la gauche, ce prolétariat, certains milieux de gauche ont voulu le remplacer par ce qu'ils appellent encore une fois les musulmans. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte, enfin, ça c'est en France, on le voit, chez beaucoup d'intellectuels, une sorte de haine de soi, une haine de la République, une sorte de mal-être et qui se traduit souvent par des écrits où l'on s'amuse à dénigrer le modèle démocratique et républicain et à fantasmer tout ce qui vient d'Orient. C'est ce que j'explique là aussi, c'est très vieux, même quelqu'un de très avisé comme André Malraux était tombé un petit peu dans ce travers, à travers certains de ses écrits, où par exemple il fantasmait la Chine qu'il a connue à peine à travers 3 ou 4 voyages, et il avait un regard parfois un peu trop critique à l'égard de la grande civilisation européenne, hein, mais dans le sens les démocraties européennes, qui sont toujours perfectibles, qui ne sont pas parfaites, etc. Mais quand on doit comparer entre notre vie, par exemple en France, et la vie dans les sociétés arabo-musulmanes, il n'y a pas débat, me semble-t-il. Et je ne le dis pas méchamment, il n'y a pas débat. Pourquoi ? Non pas parce que pour une raison de civilisation, pour une raison, je dirais, d'ADN, ça serait totalement ridicule de le croire ou de le dire ou de le penser, mais tout simplement parce que les systèmes politiques sont différents. Quand on vit en démocratie, on est beaucoup plus heureux que lorsqu'on vit sous un régime autoritaire ou dictatorial. Donc, c'est cette gauche-là, cette gauche qui s'allie avec les islamistes, a une sorte de fascination pour l'islam politique, pour cet ordre, pour son caractère dit ou prétendu révolutionnaire, et comme s'ils avaient en fait une revanche à prendre.
C'est un peu de l'ordre de Cuba à l'époque, avec la révolution cubaine, c'est ça ? Oui. Il y a le côté exotique.
Oui, mais je le vois tout le temps. C'est-à-dire qu'on cherche à créer ou à préfabriquer des images d'Épinal, comme ça, de valeureux révolutionnaires. Regardez, par exemple, quelqu'un comme le détestable, et je pèse mes mots, et je les assume, Tariq Ramadan, qui, pendant des années, a fait rien d'autre que du prosélytisme sous un ton charmeur, séducteur, etc. Enfin, séducteur. Non. Oui, il a séduit, y compris des journalistes. Non, mais je parle de l'opinion publique, où les gens le trouvaient magnifique, enfin, certaines personnes le trouvaient magnifique, etc. Il s'était beaucoup allié avec des milieux de gauche pour diffuser une pensée en vérité détestable qui est fondamentalement contre tout ce que la gauche est censée incarner comme valeur. C'est d'ailleurs la grande anomalie. C'est-à-dire que la gauche, celle qui s'allie avec l'islamisme, s'allie quand même avec un totalitarisme qui est porteur d'une idéologie.
Bah, ce sont eux les fossoyeurs de la République.
Mais c'est exactement eux.
Il y a République dans fossoyeurs de la République.
Ils mettent en danger des principes essentiels. Ils mettent en danger les principes essentiels en accordant un crédit à des gens dont la volonté est de fragiliser la démocratie et la République.
Est-ce qu'on peut parler de quelques exemples qui sont dans votre livre ? L'UNEF, par exemple ?
Ah oui, mais il n'y a pas que l'UNEF. Je donne, les lecteurs le verront, des dizaines d'exemples. Il n'y a pas l'UNEF. D'ailleurs, j'ai parlé très peu des gens qui sont déjà révélés que de gens qui ne sont pas encore connus. Parce que c'est très important. Je n'ai pas fait une revue de presse pour dire, raconter des choses qui sont déjà connues. J'ai essayé, dans ce livre, d'aborder 3 éléments. D'abord, un aspect historique. D'où vient l'islamo-gauchisme ? Très vite, l'islamo-gauchisme, ce que j'appelle l'an zéro, c'est la révolution égyptienne en 1952, où des officiers libres, des militaires, d'inspiration marxiste-léniniste, vont s'allier avec la confrérie des frères musulmans pour renverser une monarchie proche des Britanniques. Ça, c'est l'an zéro. L'an 1, ça a été l'indépendance de l'Algérie, où on a un président algérien, Ahmed Ben Bella, qui va avoir, par exemple, 2 conseillers, un éminent constitutionnaliste égyptien, frère musulman, qui s'appelle Taoufik Echaoui, et un Français d'origine chypriote, Michel Pablo, qui est le fondateur du courant pabliste chez les trotskistes. Et voilà l'incarnation, là aussi, de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire un seul président d'un État fraîchement élu qui va s'adjoindre les services et les conseils de 2 antagonismes, l'islamisme d'un côté et le trotskisme de l'autre.
Est-ce qu'il y a un complexe aussi ?
Pardon, si ce n'est pas l'islamo-gauchisme, ça, je veux bien savoir ce que c'est. Quand vous avez quelqu'un comme, qu'on a oublié ou dont on ignore le nom, Ali Shariati, qui est considéré comme le théoricien de la révolution iranienne, qui avait séduit tout Saint-Germain-des-Prés, à commencer par Jean-Paul Sartre, qui était le président des détenus politiques iraniens. Et Jean-Paul Sartre et une partie de Saint-Germain-des-Prés, Michel Foucault, etc., tous ces intellectuels français qui étaient à la mode dans les années 70, vont avoir une fascination pour Khomeini et pour la révolution iranienne. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est de l'islamo-gauchisme ? Ensuite, quand il y a eu la guerre civile algérienne, quand on voit comment certains médias traitaient les démocrates algériens et les laïcs, enfin, j'en fais partie, vous citiez tout à l'heure des accusations qui m'ont été opposées parce que je me suis opposé à l'islamisme. Tous les démocrates algériens, toutes les féministes ont reçu le même type de diffamation. Il faut dire les choses comme elles sont, de la part de certains médias. Je pense notamment à Libération, qui s'est donné un malin plaisir à défendre ou atténuer la dangerosité de l'islam politique. Qu'est-ce que c'est là aussi, si ce n'est de l'islamo-gauchisme ? Donc, cet islamo-gauchisme, d'abord, est récurrent depuis un demi-siècle. Même une soixantaine d'années, il revient de façon constante. Depuis les années 80, il faut le dire, il y a eu une dérive en France où certains milieux de gauche, par fascination, par naïveté, mais aussi, il n'y a pas que de la naïveté, il y a de la responsabilité, par cynisme politique, parce que certains élus de gauche, et pas seulement de gauche, il y en a certains qui sont de droite qui ont fait aussi la même chose, mais ça c'est un autre sujet, mais dans les territoires, dans certaines communes, certains élus de gauche ont fait des islamistes une clientèle électorale pour gagner des élections.
Alors j'ai trois nouvelles questions qui sont arrivées des auditeurs suite à l'annonce de votre venue, Mohamed Sifaoui, pour la présentation de votre livre « Les Fossoyeurs de la République ». C'est de nouveau Valérie, la présentatrice du journal de Radio Judaïka, qui les a sélectionnées. Voici la première de ces questions pour cette deuxième partie.
Une question de Bernard de Souffelbayersheim. Qu'est-ce qui motive les choix des différentes enquêtes de Mohamed Sifaoui ?
Une cohérence. D'abord, permettre d'expliquer la réalité de l'islam politique et partager la modeste expérience qui est la mienne. Ce qu'on doit éviter, c'est de se faire des convictions sur la base d'éléments erronés qui sont parfois produits par des cercles ou par des milieux, je dirais, propagandistes. Je pense notamment à l'extrême droite qui est aussi très, très portée vers des discours complotistes. C'est-à-dire que moi, je me situe d'abord dans l'information. Si je fais de l'information, je ne suis pas un propagandiste. Je choisis mes enquêtes en fonction d'une connaissance d'un sujet, l'islam politique, et je me situe dans une nuance qui écarte ou qui renvoie dos à dos l'exagération de l'extrême droite avec ses relents complotistes et le déni de l'extrême gauche avec aussi ses relents complotistes.
Une deuxième question.
Il s'agit d'une question d'Ariel de Metz. Bonjour, merci de recevoir M. Sifaoui. Se considère-t-il comme un musulman de France ?
Je me considère comme un citoyen appartenant à la République française. Est-ce que, franchement, ma croyance ou ma non-croyance a un impact sur ce que je dis ? Je ne le crois pas. Moi, j'ai toujours répondu quand on m'a... Enfin, toujours non, parce que j'ai fait l'erreur de parfois... Mais en ce qui me concerne, je rappelle une chose, c'est qu'une croyance ou une non-croyance, ce n'est pas un métier, c'est, je dirais, quelque chose d'intime et de personnel. Je suis très détaché de la religion, totalement éloigné de la religion. Je respecte certaines pratiques culturelles comme n'importe qui, parce que ça me rappelle des souvenirs, mais mes principales pratiques culturelles sont des pratiques républicaines. Mmh. C'est-à-dire que, je vais vous faire une confidence. J'étais chez des amis ce week-end, enfin lui le week-end de Pessah pour passer Pessah. Je fête Noël et je vais parfois chez des amis fêter l'Aïd. Donc et aussi je fais des fêtes avec des dîners hors Covid évidemment avec des amis sans aucune raison je dirais religieuse. Donc je suis totalement apaisé par rapport à ça. La religion ne dicte pas ma vie ni ma morale. Je n'ai pas besoin de religion pour avoir des valeurs. Je n'ai pas besoin de religion pour avoir des principes. Je n'ai pas besoin de religion pour avoir des convictions. Et ce que je suis, c'est avant tout journaliste, citoyen qui exprime une opinion.
Une troisième question.
Une dernière question. Il s'agit de Sacha de Strasbourg Centre. Monsieur Sifaoui, pensez-vous que la France sera musulmane ?
Ah non. Non, parce que d'abord, sociologiquement, ce n'est pas possible. Statistiquement, ce n'est pas possible. Et si on parle, en vérité, il y a entre 5 ou 6 millions de musulmans réels ou supposés. Je dis bien réels ou supposés. Parce que vous voyez, je me prénomme Mohamed, vous ne savez pas si je suis musulman. Vous ne savez pas si je suis encore musulman. J'aurais pu l'être et j'ai le droit de changer d'avis. C'est la magie de la République et de la laïcité qui consacre la liberté de conscience. Si je ne le suis pas aujourd'hui, je peux le devenir demain. Et vous imaginez qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans ce cas de figure. Les musulmans ne sont pas, encore une fois, je l'ai dit, un bloc homogène et monolithique. Encore moins sous les ordres des islamistes. Donc, ceux qui croient, et parce qu'il y a ces théories de réislamisation, de grand remplacement, etc., ceux qui croient dans ces théories conspirationnistes sont des gens qui, pardon de le dire comme ça, n'ont aucune connaissance de la réalité, ni de la sociologie. Ça veut dire, c'est imaginer que demain, moi, parce que je me prénomme Mohamed, que s'il y a un type, on va l'appeler Rachid, qui va être islamiste, qui va se présenter à une élection, je vais voter pour lui. C'est-à-dire, il y a des gens suffisamment intelligents pour croire ça. Est-ce que vous le croyez, vous ? Je ne pense pas que vous le croyez. Vous savez très bien que la plupart de ceux qu'on assigne à identité, à résidence identitaire, qu'on définit comme des musulmans, ne votent pas pour des personnes qui portent le même patronyme qu'eux. Et heureusement, Donc, il y a deux façons de prendre le pouvoir. C'est soit par la révolution. Je ne vois pas une civilisation qui ne produit plus rien, même pas la balle avec laquelle elle nous menace, prendre le pouvoir en France. Et je ne le vois pas. Deuxième point, c'est de prendre le pouvoir par la voie électorale. Je ne vois pas une possibilité d'islamistes de gagner des élections.
Merci Mohamed Sifaoui, c'est passé très vite cette heure avec vous.
Merci pour l'invitation voilà. Et c'était très sympathique.
Mohamed Sifaoui, donc, qui vient de sortir ce livre « Les fossoyeurs de la République, islamo-gauchisme, l'enquête inédite aux éditions L'Observatoire ». Qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant ?
Ah ben, souhaitons... Non, moi je... Franchement, alors c'est pas la langue de bois, ne me souhaitez rien, souhaitons-nous. Du plaisir, du bonheur, de la sécurité, de la tranquillité et surtout qu'on vive ensemble dans une société apaisée et apaisante. Il faut souhaiter moins de tensions pour tout le monde. Pour moi, enfin, voilà, j'ai appris depuis très longtemps, depuis que j'ai échappé à la mort, à vivre quasiment au jour le jour. Je sais qu'au regard des sujets que je traite, je peux recevoir à n'importe quel moment une balle dans la tête. Je l'assume, c'est pas pour dramatiser les choses. Donc je vis intensément chaque instant avec les gens que j'aime, avec mes proches, avec mes amis, et surtout intensément un engagement républicain. Donc souhaitons-nous de vivre de façon paisible et de façon intense tout ce qui constitue nos passions, tout ce qui nous fait rêver, tout ce qui nous met en joie. Et surtout souhaitons-nous d'avoir les uns pour les autres de la bienveillance et d'avoir de l'intransigeance pour ceux qui compromettent, le devenir de ce beau pays qui est la France.
Profession de foi, l'émission politique de Radio Judaïca présentée par Éric Vial. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site de la radio www.radiojudaicastrasbourg.fr. Très bonne journée à vous.